hors champ. Hors champ, aujourd'hui avec Jean-Paul Kaufmann. Jean-Paul Kaufmann, à l'intérieur de vos livres, on peut découvrir des fragments de votre personnalité, votre désir de voyager, de vous imprégner des lieux, des paysages, des atmosphères, des odeurs, des saveurs. Mais au fond, on ne sait rien ni de votre enfance, ni de votre désir d'entrer, parce que je pense que c'était une vocation dans le journalisme.
Oui, enfin, moi, le journalisme, ça a été une sorte de malentendu. J'aimais la littérature, j'aimais écrire. Et je me suis dit, je serai journaliste. Et évidemment, je me suis aperçu très vite et très tôt que ça n'avait absolument rien à voir. Mais en même temps, c'est un métier que j'ai aimé, qui m'a procuré de grandes joies.
Et entre le journaliste du Matin de Paris et le journaliste qui a commencé dans cette auguste maison de la radio, qui travaillait donc à ce qui ne s'appelait pas encore Radio France Internationale, vous préférez la presse écrite ou la radio, présence de la voix ?
La presse écrite, évidemment, de très
loin.
Ah,
vous dites ça dans une émission de radio ?
Oui. Non, c'est vrai.
Mais oui. Pourquoi donc ?
Ça m'a toujours gêné de parler un peu... Oui, j'ai toujours été un peu paralysé par le micro. Alors, j'ai fait cela pendant 7 ans, c'est peut-être pas une très bonne chose. Et il est vrai que mes années, j'ai passé 7 ans à RFI, 7 ans au Matin de Paris, 77-84, et c'est vrai que mes années au Matin de Paris ont été vraiment les plus heureuses professionnellement de mon existence. Parce que le Matin de Paris, c'était vraiment un journal tout à fait particulier.
Faut restituer dans quel contexte ce journal est né.
Il est né en 1977. À l'époque de l'Union de la Gauche, c'est un journal qui a passé longtemps pour un journal rocardien, je crois à tort, parce que le Nouvel Observateur, dont le patron était Claude Perdriel, passait lui pour un rocardien. Je crois que c'est tout à fait inexact. Donc en 77, j'ai fait partie de l'équipe fondatrice du Matin de Paris. Et ce qui a été véritablement, je crois, fatal à ce journal, ça a été la victoire précisément de l'Union de la Gauche en 81. Parce que il est passé, je trouve ça extrêmement injuste, pour le journal du pouvoir.
Le journal officiel.
Voilà, c'est ça. Et je pense que...
Alors qu'il était resté contestataire.
Très contestataire. Et puis c'était un journal... entre nous, que François Mitterrand n'aimait guère. Voilà, et puis ça a été la montée en force de Libération. Je crois aussi que ce journal, et je ne le dis pas du tout dans une part péjorative, le Matin de Paris, c'était un journal moderne par bien des égards, mais en même temps, il y avait une forme de gratuité qui existait, alors qu'aujourd'hui un jeune journaliste, c'est un stakhanoviste de l'information. Il faut produire. Et au Matin de Paris, quand on avait fait un bon papier,
on allait fumer son cigare et boire son verre de Bordeaux, aime Jean-Paul Kaufmann.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai découvert le Bordeaux. Ce journal a disparu et en même temps, les gens qui ont fait partie ont essaimé un peu partout. Et c'est vrai, quand on interroge un ancien du Matin, c'est peut-être aussi parce que ça correspond à sa jeunesse. Il y a une grande mélancolie.
Vous avez mis beaucoup de temps, Jean-Paul Kaufmann, à écrire un livre sur votre propre histoire. Pourquoi a-t-il fallu tellement de temps ? Et à l'intérieur de ce livre, où vous racontez les circonstances de votre captivité, puis ensuite les conditions de votre captivité et comment la lecture vous a tenu en vie. Je pense que c'est peut-être un mot que vous accepterez. Ce qui est très impressionnant, c'est que quand vous prenez l'avion pour Beyrouth, ce jour-là, eh bien, vous n'avez pas vraiment envie de partir. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre tête? Est-ce que vous avez comme un pressentiment?
Bah, je sais pas, oui. Vous savez, on dit quelquefois, les animaux, avant un tremblement de terre, ont une espèce de pressentiment. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ai très peu. Vous faites sans doute allusion à ce livre, La Maison du Retour. J'ai très peu parlé de ma captivité en tant que telle, mais j'ai parlé de quelque chose.
Du retour.
Oui, du retour. Ouais. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Je crois que les livres plus que la littérature m'ont sauvé. J'ai eu quelques livres pendant cette captivité, très peu, hein, 3 ans, il faut occuper le temps. Et il y avait des périodes où on n'avait absolument rien à lire. Et j'ai raconté, je l'ai raconté très souvent, il m'est arrivé d'avoir, par exemple, parce que nos geôliers choisissaient n'importe quoi, je sais pas comment ils trouvaient ces bouquins, il m'est arrivé une fois, par exemple, d'avoir un livre de la collection Harlequin. Oui, j'en ai fait mes délices. Et je crois que peu importe le livre, dans ces situations-là, vous n'êtes plus seul, il y a une voix qui vient de l'extérieur. Alors évidemment, j'aurais préféré peut-être autre chose, mais vous voyez, deux fois dans ma vie, je crois que les livres m'ont sauvé. Ça a été une circonstance beaucoup moins douloureuse. Moi, j'ai été pensionnaire. Bon, mais c'était avant 68. Hein, je suis né en 44 et les années 50, j'étais dans un pensionnat la vie était difficile, très triste et la seule façon de m'en sortir, ça a été la lecture, hein, cette vie rêvée dont parle Proust, qui est la vraie vie. Et en même temps, alors, moi je me dis souvent, bien sûr, la littérature vous sauve, mais la littérature, parfois, je me pose la question, la littérature apprend-elle à vivre? Je pense aussi parfois aussi qu'elle complique la vie dans ces circonstances-là. La première circonstance dont je viens de parler, celle du pensionnat, bien sûr, elle m'a pas sauvé la vie, mais ça a été une manière de s'en sortir. Et évidemment, la seconde fois, ça a été beaucoup plus décisif.
Vous n'avez pas eu Carlequin, vous avez eu Guerre épée aussi.
Oui, Guerre épée,
mais
oui.
Le tome 2, je crois.
Oui, le tome 2, oui, mais je veux pas dire que je le connais par cœur, mais c'est un livre que je relis assez fréquemment. Ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est que lorsque j'ai été libéré, je n'ai eu de cesse de retrouver les livres qui m'avaient sauvé, 20 ou 30. Et il y en a d'ailleurs que j'ai retrouvé très 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 longtemps après, je n'arrivais pas à mettre la main dessus, c'était avant Amazon sans doute, et j'ai voulu reconstituer donc ces livres qui m'avaient sauvé.
Une arche de Noé.
Oui, tout à fait. Oui. Et par exemple, le deuxième tome de Guerre et Paix, donc je devais inventer des jeux. Donc je remontais, je commençais par la dernière page. Quand on n'a qu'un seul livre, il faut ruser aussi. Hein. Donc j'inventais toutes sortes de jeux et oui, j'ai beaucoup de gratitude à l'égard notamment de ce livre, le Prince André, Pierre Bézoukhov, c'est des personnes qui sont pour moi à mes côtés et toujours extrêmement vivantes.
Et puis un jour, en captivité, on vous a donné le livre des livres et nous allons écouter un extrait de Judith de Vivaldi, en honneur à ce ressourcement, cette méditation, cette réflexion, cette possibilité de continuer à vivre.
Mmh.
Difficile de ne pas se laisser entraîner dans la beauté de cette musique qui évoque cette Bible que vous avez demandé. Pourquoi ?
J'ai tenté ma chance et puis finalement j'ai attendu une année et on me l'a apporté un jour et au mois de juin, je me souviens, enfin j'ai gardé au mois de juin 1986, j'avais été enlevé le 22 mai 1985 et c'est vrai qu'elle m'a ce livre m'a pas accompagné malheureusement pendant toute ma captivité parce que nous déménagions très très souvent et les livres évidemment se perdaient, c'était vraiment pas la priorité pour nos geôliers mais la Bible quand même ils avaient un rapport extrêmement violent avec les objets dès que quelque chose leur échappait, qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser, ils cassaient tout. Et alors les livres, évidemment, il fallait absolument un livre. Ils pouvaient pas vous le donner de manière suave. Il fallait qu'ils volent dans la cellule. Donc, en même temps, il y avait encore une fois un certain respect. À l'égard de ce livre, il a été perdu par la suite. C'était la traduction œcuménique de la Bible. Alors les gens disent, finalement, ils n'étaient pas si... ils n'étaient pas si terribles que ça. Enfin, je crois que c'est un de leurs rares bons gestes pendant ces trois années. Mais pour moi, ça a été...
Et nous pensons à la mémoire de Michel Seurat.
Oui, bien sûr. Mais lui, il était déjà, à cette époque-là, il est décédé.
Et vous continuez à lire la Bible
parce que... oui, bien sûr. Oui.
Tous les jours ?
Tous les jours, non. Non, peut-être pas tous les jours, mais enfin, c'est quand même un livre vers lequel je me porte naturellement. Mais c'est vrai que, vous voyez, par exemple, ce jour-là, et les gens ne comprennent pas ça non plus, mais on peut avoir d'immenses bonheurs aussi pendant des moments aussi tragiques. Des trois années comme celle-là, il y a un livre qui arrive, vous dites là c'est un mois et demi que vous allez pouvoir utiliser donc avec ce jeu dont je parlais tout à l'heure, vous allez le lire dans tous les sens. Donc, c'est des moments d'intense bonheur. Vraiment ce jour-là. Même de m'en souvenir aujourd'hui là devant vous, ça c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais bon voilà, c'est, et puis c'est un véhicule, enfin c'est un livre tout terrain, je dirais, la Bible, parce que il y a vous pouvez lire cela aussi, il y a un certain nombre de contes orientaux, notamment dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, Puis peut-être aussi, il y a chez le prisonnier cette volonté aussi de retrouver, l'harmonie paisible du premier jardin à la première page de la Bible. Il y a peut-être ça, c'est cette première page là, le jardin d'Éden. Finalement, toute votre lecture par la suite de la Bible. Au fond, elle se situe dans ce regret-là, d'avoir été chassé du paradis terrestre.
J'ai l'impression, Jean-Paul Kaufmann, que depuis quelques années, vous avez inventé finalement un dispositif littéraire.
Est-ce que ce que j'écris, est-ce que il faut l'étiqueter? Est-ce que c'est, en tout cas, ce ne sont pas des romans que j'écris. Ça emprunte à l'essai, à l'histoire, à l'enquête journalistique, à l'autobiographie, au récit de voyage. Et en même temps, je n'ose dire que les techniques romanesques sont là aussi présentes dans le dans le sens où, je sais pas, il y a des flashbacks, il y a un bouleversement de la chronologie, puis il y a aussi, ce qui est, je crois, l'essence du roman, c'est une sorte de divulgation, quoi. On part à la recherche de quelque chose, d'une énigme, d'un mystère, une sorte de, c'est construit comme une sorte de dévoilement, peut-être.
C'est peut-être ça qui fait notre attachement à vos textes depuis longtemps, mais particulièrement dans les deux derniers. Je pense là à celui qui s'intitule « Remonter la Marne » et puis « Outre-Terre ». Alors d'ailleurs, c'est deux livres très différents dans leur facture, parce qu'il y en a un où vous êtes seul et un autre où vous êtes en famille. Mais par contre, le même sentiment de lectrice, en tout cas je l'ai ressenti, c'est-à-dire, et je pense que vos nombreux lecteurs pensent la même chose que moi, c'est-à-dire que littéralement on s'attache à vos pas et qu'on n'est pas censé savoir, comme vous au début, de quoi il va être question, ce qui va advenir, et que l'accident fait partie aussi de la recherche et la surprise.
Oui, vous avez raison. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, quand je commence un livre, je me demande toujours quel temps vais-je choisir. Et c'est vrai que, par exemple, l'imparfait, c'est toujours tentant, parce que c'est le temps littéraire par excellence. Ça donne au récit de la fluidité, ça coule, j'allais dire, de source, tandis que le présent, c'est une façon aussi d'emmener avec soi, par la main, le lecteur et de l'emmener. Oui, voilà, il est là dans l'action, dans l'immédiateté, mais on se prive en effet de cette fluidité. Bon, en tout cas...
Au coin de la rue, l'aventure.
Oui, parce que finalement, je choisis toujours des lieux, oui, des lieux désolés, mais en fait, des lieux en apparence vides. Mais au fond, quand on regarde les choses attentivement, prenons l'exemple de Outre-Terre, cette ancienne Prusse orientale, qui est vraiment un pays en apparence sinistre, en apparence vide. Et au fond, lorsqu'on regarde les choses de plus près, on voit bien que l'histoire déborde de partout. Et elle s'est retirée à un moment, et au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je dirais, l'étiage, quand l'histoire s'est retirée. Et au fond, ce récit de voyage outre-terre, c'est un peu cela.
Il y a toujours, peut-être caché, un peu comme Edgar Poe dans La lettre volée, quelque chose de très personnel dans vos récits. Vous ne le savez peut-être pas, c'est peut-être enfoui, ça surgit peut-être au gré de vos déambulations. En tout cas, j'en veux pour preuve d'en remonter la Marne le fait de retrouver Vitry que vous aviez connu quand vous étiez tout petit enfant. Vitry, vous n'étiez jamais revenu, et donc il y a comme... C'est comme des récits un peu cryptés, et on reviendra dans Outre-Terre, mais c'est la même chose aussi Outre-Terre. Pas à cause d'un lieu comme Vitry dans Remonter la Marne, à cause, je crois, d'un personnage, mais déjà Vitry.
Oui, alors bon, la lettre volée, c'est l'invisibilité de l'évidence. Alors je sais pas, oui, Vitry, c'est très curieux que vous parliez de Vitry, en effet, parce que je n'en ai gardé aucun souvenir. J'y suis allé lorsque j'étais enfant, et je retrouve... ce lieu avec, en effet, des significations cachées, cryptées, comme vous dites, et que je vais essayer de retrouver, de traduire. Mais en fait, vous savez, c'est comme dans les romans policiers, qui sont fondés sur la divulgation, on est toujours très déçu par la solution de l'énigme. On se dit, ça n'était que ça.
Oui, se dit aussi, on aurait peut-être fait mieux.
C'est ça.
Ce qui est un peu prétentieux.
Non, mais vous avez raison. C'est vrai qu'on est toujours un peu, quand on lit, je sais pas, moi, Agatha Christie, on se dit, oh, quand même, là, c'est pas la hauteur de l'intrigue. Hein, on a été emmené, puis paf, ça tombe, ou un Simenon. C'est un peu la même chose. Donc, dans la chasse au trésor, en effet, c'est la chasse qui importe, hein. C'est pas le trésor. Donc, c'est toute cette quête, toute cette enquête qui me passionne. Et d'en remonter la Marne, en effet, ça a été quelque chose de très bizarre, parce que en effet, moi, j'ai remonté la Marne, j'ai pas descendu la Marne. Hein. C'est-à-dire que pour moi, de partir de la source jusqu'à la rencontre avec la Seine, au fond, ça, c'est aller vers la mort. Tandis que remonter la Marne, c'est aller vers la source, vers la naissance, vers le commencement, vers l'origine. Puis c'était aussi peut-être pour moi une façon d'aller à, comment on dit, oui, peut-être à rebrousse-poil, vous voyez, contre une certaine forme d'évidence. Bon, cela dit, c'est pas un exploit de remonter la Marne. C'est, en plus de ça, pour un randonneur comme moi, c'est 520 km, c'est très plat, il n'y a pas du tout ces montagnes russes, ces accidents qu'on peut avoir là dans la marche à pied, dans la randonnée. Donc, mais remonter la Marne, c'est quelque chose de très curieux, parce que moi, je voulais depuis un certain temps parler de la France qui ne va jamais à Paris et qui s'en félicite. Mais j'essayais de trouver un moyen, un fil rouge, et c'est imposé à moi, en effet, la rivière. La rivière, parce qu'elle traverse des lieux, des pays, des régions tout à fait différentes. Et puis la Marne, bah, parce que la Marne aussi, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de la France, des cours d'eau qui retentissent affectivement, sentimentalement, comme la Marne. Il y avait la Loire, mais la Loire, sujet un peu rebattu. Donc, c'est imposé à moi cette Marne, parce que aussi la Marne, alors c'est peut-être d'actualité, c'est la Marne aussi, c'est le retournement. Hein, c'est tout va mal, et puis au fond, oui, la catastrophe et le renversement, comme en août et en septembre 1914. Et cette idée-là aussi me plaisait bien. Vous voyez, là, contre l'évidence.
En tout cas, quand on lit vos bouquins, Jean-Paul Kaufmann, en dehors du plaisir de lire votre écriture, il y a aussi ce plaisir d'apprendre, parce qu'on apprend. Ce sont aussi des livres d'histoire. On apprend en lisant En remontant la Marne, on apprend aussi évidemment en lisant Outre-Terre. Et je parlais de personnages cryptés et de recherches à l'intérieur de votre propre recherche. Et dans Outre-Terre, qui raconte donc l'histoire de la bataille d'Eylau, eh bien, c'est le colonel Chabert qui est peut-être la figure mémorielle peut-être la plus importante. Pourquoi ?
Ah oui, vous avez tout à fait raison. Le colonel Chabert est le personnage peut-être le plus important de ce livre, le revenant. Parce que c'est aussi un personnage inépuisable. Et on s'identifie plus facilement, je dirais, à Chabert qu'à Eugénie Grandet ou au père Goriot, parce que, je disais, le revenant, on revient toujours de quelque chose. Hein, on revient d'un malheur, on revient d'une épreuve, on revient de la prison, on revient de l'hôpital, il y a quelque chose. Donc, le collège Chabert, c'est le revenant et c'est l'inopportun aussi. Hein. Alors, il revient 9 ans après, dans une France qui a beaucoup changé. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressé dans ce personnage-là, c'est que il revient dans un monde qui a changé. L'Empire s'est effondré, c'est la Restauration, c'est le règne de l'argent. Et lui, c'est pas, il trouve plus sa place. Puis d'abord, c'est un sans-papier, ce colonel Chabert. C'est que il revient, il a tout perdu. Il a perdu sa femme, qui se croyait veuve et qui s'est remariée. Non seulement elle s'est remariée, mais elle a 2 enfants. Donc il va essayer de récupérer son nom, son rang, sa maison, sa fortune. Ce qui est très drôle aussi, c'est que dans Balzac, c'est une histoire tragique, bouleversante, mais elle est très drôle. C'est très, il y a une ironie, une forme de dérision de la part de Balzac. Il l'appelle le défunt. C'est vrai que ce personnage de Chabert est tout à fait pathétique. Il dit « Ma mort est un fait historique ». Alors, comment essayer de se débrouiller avec tout ça? Et il n'y arrive pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Il a compris que personne ne veut de lui. Et pourtant, on le reconnaît. On l'a reconnu, sa femme l'a reconnu, elle sait que c'est lui, que ce n'est pas un imposteur. Et il va retourner dans le royaume des morts, c'est-à-dire à cet hospice des enfants trouvés, où il sera à jamais exclu de la société. Puis c'est l'homme, Chabert, qui ne veut pas transiger. D'ailleurs, le premier titre du colonel Chabert, la première version, c'est « La transaction ». Il veut pas transiger, il veut redevenir l'homme qu'il était. Ah, il a pourtant connu une épreuve terrible et il pense que tout va redevenir comme avant. Et c'est impossible. Ah, et l'avoué d'Herville lui dit il faut transiger. Et lui, il ne veut pas. Et je crois que ça sera une des raisons de son malheur et de sa perte. Donc c'est au fond, la trace la plus intéressante, puisque c'est ça aussi qui m'intéresse dans des événements comme Hello, c'est qu'est-ce qui subsiste d'un événement comme celui-là qui a eu lieu 200 ans auparavant. Et au fond, la trace la plus vivante, c'est un personnage évidemment imaginaire, c'est ce colonel Chabert.
Ben merci Jean-Paul Kaufmann. J'envie les gens, les personnes qui ne vous ont pas encore lu. Merci pour ce que vous êtes et merci pour ce que vous faites. Je rappelle les titres des deux derniers ouvrages, Remonter la Marne aux éditions Fayard et le dernier, Outre-Terre aux éditions Équateur. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Corinne Amar, Samuel Bernard, Élodie Royer, Valérie Lavalard et Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture.
Thank you.